Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence tout de suite, Paul, avec la polémique du jour.
L'ancien patineur Philippe Candeloro a déclenché une polémique dans une interview à nos confrères du Figaro. Il a remis en cause l'époque, je le cite, « Aujourd'hui, avec le MeToo, le wokisme, on n'est plus aussi naturel qu'au départ », dénonçant une société où on s'auto-censure constamment. Lui semble vouloir y déroger, oui, interroger sur son hétérosexualité. Philippe Candeloro dénonce « Moi, je suis hétéro, est-ce que c'est une maladie aujourd'hui ? J'ai l'impression que oui ».
On appelle ça un dérapage, Thierry Moron ?
Oui, parce que déjà mettre sur le même plan la sexualité et la maladie, c'est déjà quelque chose qui est conceptuellement un peu compliqué. Et puis il dit aussi à un autre moment de l'interview, ça me frustre qu'on est soi-disant dans un pays de liberté, que finalement on n'est plus aussi libre que ça. Ben non, c'est pas juste ça, c'est que notre société évolue. Elle a donc fait en sorte qu'un certain nombre de choses ne sont plus possibles, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, et que donc, ça, c'est aujourd'hui criminalisé. C'est pas une question de liberté, c'est une question d'empêcher des discriminations. Et donc, il a visiblement pas compris ça, il vit dans une autre époque. Alors, il dit que quand il est arrivé avec Nelson Montfort au commentaire, il a fait 3 millions de téléspectateurs en plus, qu'il a amené une fraîcheur et qu'il n'y a plus aujourd'hui cette fraîcheur. Bah, je suis désolé, j'ai pas de regret pour ça. Le côté c'était mieux avant m'énerve sur ce plan sociétal et la façon dont il s'exprime.
Voilà, et là où il se trompe, c'est quand il dit avec MeToo, on n'est plus aussi naturel qu'au départ. Mais, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je veux dire,
il a jamais été hyper
progressiste, tu veux dire?
Hyper classe. C'est pas
sa qualité première.
Ouais, on est d'accord.
C'était plutôt quelqu'un d'hyper naturel, voilà, qui faisait marrer.
Mais tu peux avoir un humour lourdain sans être.
Je suis pas du tout étonnée qu'il regrette qu'on puisse plus faire aujourd'hui des blagues sexistes, misogynes, macho primaires, parce que je pense qu'il adorait les faire, hein, voilà. Donc
oui, il en a fait quelques-unes. Alors après, il y a quelques années, il était très aimé aussi pour ça.
Il est hyper.
Voilà, et puis derrière, il y a quelques dérapages qu'on fait que bon,
il était hyper. Plus compliqué, mais... Moi, je l'aimais bien quand il patinait, en fait.
Ah bah bien sûr, super.
Voilà. Donc c'est après quand il a parlé
de médailles de bronze au JO.
Ils regrettent comme beaucoup parce qu'ils peuvent plus faire leurs blagues salaces. Ça leur passera, ça lui passera ou pas, tant pis pour lui. Hein.
Je te sens dubitatif, Fred.
Non, mais un dérapage pour un patineur, pourquoi pas. Donc c'était voilà. Franchement, je sais pas comment il est parti dans un truc, il a pas réussi à s'en sortir.
Ouais, c'est vrai.
Et
c'est vrai,
je pense que c'est ça en fait. Hein, je le connais pas personnellement, donc je ne sais pas s'il est homophobe et tout ça. Mais après, que les homosexuels ne soient plus obligés de se cacher dans la société, je trouve
mais tant
ça
mieux,
plutôt
je
bien
pense
quand même.
Oui.
Hein,
oui.
Franchement, on passe il y a 50 ans, il y avait encore. Moi, j'ai connu des amis. Des amis qui devaient
cacher. Vous avez beaucoup d'amis dans cette émission.
J'ai plein d'amis qui étaient obligés de cacher leur homosexualité à leur travail, quoi. Donc, et j'ai même un ami malheureusement décédé du SIDA qui travaillait dans une grande compagnie d'assurance et quand on a découvert son homosexualité, on l'a viré quand même. Ah bah sous prétexte.
Mais Dieu merci, on est plus
là. Je te parle de ça il y a une trentaine d'années, mais
bien
voilà,
sûr.
Et c'était la France il y a encore 30 ans. Donc on peut pas regretter ce temps-là, non.
On va passer au bannissement du jour.
Celui d'un prêtre un peu particulier, oui, puisqu'il a été créé par l'intelligence artificielle. Le père Justin avait pour mission de répondre aux questions des internautes sur la foi et l'enseignement de l'Église, mais notamment après avoir conseillé de baptiser un enfant avec une boisson énergisante, un flot de réactions négatives. Eh bien, les créateurs du Père Justin ont annoncé que le personnage virtuel n'était plus prêtre, mais un simple catholique tout aussi compétent sur les questions de théologie. Vous pouvez donc toujours lui poser des questions, mais il n'est plus prêtre.
Oui, voilà, le progrès a ses limites, Thierry Moreau.
Oui, enfin, c'est surtout que si celui qui n'est plus devenu prêtre, mais devenu un catholique consultant, continue de préconiser le baptême à la boisson énergisante, ça pose toujours un problème, à mon avis. Après, on est sur des choses qui sont irrationnelles, en l'occurrence la religion. L'intelligence artificielle.
Quoi ?
L'intelligence artificielle, quand elle va se sophistiquer, je suis sûr qu'elle sera capable de répondre de manière totalement impeccable à toutes les questions qu'on pourra se poser une fois qu'elle sera suffisamment développée.
Après, moi, je trouve ça super. On n'arrête pas de déplorer la baisse du nombre de prêtres aujourd'hui en France et ailleurs. Donc, si tu peux avoir une intelligence artificielle qui répond à tes questions, c'est quand même pratique, Fred Hermel.
En fait, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont sur les réseaux sociaux. vraiment qui essaie. Ah bon, moi, bien sûr, il y a des moines, des prêtres, des gens qui sont absolument merveilleux.
Et qui s'appellent Père Michel, bah, non, Père prêtres, Jean.
Voilà, par exemple.
Des vrais gens, quoi.
Des vrais, vrais gens.
On manque quand même de prêtres en France. Ah,
bah, mais excusez-moi, mais ça me gêne, en fait.
Mais non, ils expliquent.
Bah, si,
Mais ils sont là pour expliquer. Je vais te montrer, notamment, le Jour du Seigneur, l'émission, qui est la plus vieille émission
de
la télévision de France, offre sur les réseaux sociaux. C'est un moine qui fait des références, voilà, qui explique ce que c'est que l'Assomption, le lundi de Pentecôte, etc. Mmh. En une minute, vraiment le format jeune réseaux sociaux TikTok.
Format TikTok, quoi.
TikTok.
Il y a des prêtres sur TikTok.
Bah oui.
Oui.
Bah oui. Mais ils dansent.
Non, ils dansent pas. Ils te parlent, ils te répondent à tes questions.
Ils font comme des petits tutos et ça cartonne.
C'est excellent. Oui.
Ils font des tutos prêtres.
Mais c'est très bien fait.
Sur Snapchat. Parce que les gens disent voilà, l'Ascension. Alors c'est quoi l'Ascension? Les gens ne savent pas ce que on va. Il y a un jour férié, jeudi de l'Ascension. Les gens ne savent pas ce que c'est. Oui. Et ben, il y a un prêtre.
En revanche, ils savent bien que c'est férié, je peux te dire.
Oui, ils savent que c'est férié, mais ils ne savent pas que c'est l'Ascension de Dieu.
Et savoir en une minute ce que ça représente.
De Jésus.
Bien, mais c'est très général, bien. Je ne savais pas que ça existait.
Et c'est extrêmement bien fait, vraiment. Moi, j'apprends plein de trucs. Alors, il y a plein de trucs que je sais déjà, mais j'apprends plein de trucs. Et pour et c'est dans une grande modernité, avec des illustrations, avec de l'humour, avec tout ça. Donc, pas besoin d'intelligence artificielle.
Il y en aura un jour.
Paul, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je vous ai parlé du baptême à la boisson énergisante. Ce qui a principalement décidé les créateurs du Père Justin à le déclassé, on va dire ça comme ça, c'est qu'il était l'intelligence artificielle a visiblement pris le dessus, il se prenait un peu trop pour un vrai prêtre. Oui, parce qu'il allait jusqu'à proposer le sacrement de la confession à certaines personnes qui lui posaient des questions. Voilà, ça devenait un peu.
Ah oui, il a pris le melon. C'est de la vente forcée en fait.
C'est pris pour Dieu.
Ouais. Bah si, c'est un peu de la vente forcée.
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
L'alerte du jour.
Oui, un reste à charge sur les dépenses de santé faibles mais terriblement mal réparties et pesant pour les Français les plus modestes. Voilà ce constat dressé par une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée hier. Environ 800 000 personnes ont subi un reste à charge dit catastrophique, c'est-à-dire qu'il ampute sévèrement les revenus disponibles après les dépenses de première nécessité. Il faut quand même savoir que le reste à charge des Français pour leurs dépenses de santé est le plus faible d'Europe, à peu près 9%. Selon le chiffre de 2021 qui figure dans cette étude de l'Organisation mondiale de la santé.
Et le reste à charge, c'est bien sûr ce qu'il reste à payer une fois que la Sécu ou les mutuelles ont pris le relais. Et on sait que la France a doublé ses franchises, notamment c'était 50 centimes la boîte pour une boîte de médicaments, c'est 1 euro, mais avec quand même un plafond de 50 euros. Fred, je te sens énervé.
Ah non, mais vraiment,
quoi,
ces institutions internationales, mais qu'elles regardent ailleurs, quoi.
Plaisante,
pointer du doigt la France par rapport à ça, alors qu'on a un système de santé extraordinaire, que les maladies graves sont remboursées, sont prises en charge à 100%. Mais je veux dire, il y a plein de trucs qui vont pas en France, mais ça, par rapport à d'autres pays, ça marche, la santé. Non, mais par rapport à nos voisins, c'est...
Mais on te dit pas que ça marche pas. On te dit qu'en fait, il y a un problème parce que les plus pauvres, effectivement, quand t'as 1 euro pour une boîte de médicaments, si tu gagnes très bien ta vie, tu t'en fous. Si tu la gagnes pas, c'est beaucoup.
Mais c'est très cher.
Tu oublies une chose, c'est que dans notre pays, on a cette tradition depuis extrêmement longtemps et que donc les gens sont habitués, et notamment les précaires, à ce que ça coûte zéro. Donc au moment où ça coûte plus zéro, mais 1 voire 2 euros, en plus, je te signale que c'est chez les plus précaires que souvent tu as des pathologies, tu as des maladies parce que tu te soignes moins bien, donc tu as plus souvent recours aux médicaments, et donc tu payes ça.
Mais qu'on soit pointé du doigt par rapport à d'autres pays.
C'est pas une question de pointer du doigt, c'est que sa comparaison ne tient pas. Parce qu'effectivement, comparé avec un système où, comme aux États-Unis où il faut que tu sortes ta carte bancaire avant ta carte vitale, ça n'a pas de sens. En revanche, comparé au fait que par rapport à la situation précédente où c'était pas le cas et que maintenant c'est payant, il y a une partie des gens précaires pour lequel c'est compliqué.
Ça, on dans est un d'accord, contexte, mais que l'OMS pointe ça du doigt,
je trouve ça dingue. Et surtout dans le contexte actuel, c'est que précisément on est fait peser sur ces familles les plus précaires oui, mais ils ne devraient pas payer en réalité. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus les moyens. Les pauvres s'appauvrissent.
Tu veux faire payer les médicaments aux revenus, en fait, en fonction des revenus. C'est-à-dire que si t'es riche, tu paieras tout. Et riche et malade, tu paieras tes médicaments à 100%. Et si t'es pauvre, 0%.
Non, c'est impossible.
Ah oui. Donc comment on fait en fait? Et je suis désolée, pour les personnes les plus modestes en France, tu as déjà la CMU qui fait que normalement tout est gratuit, ce qui n'est pas le cas pour les personnes les plus aisées. Il y a un moment et il y a quand même le plafond. C'est-à-dire qu'effectivement la franchise elle double. C'est 1 euro la boîte de médicaments, mais c'est plafonné à 50 euros l'année, ce qui veut dire que t'es à 4 euros, t'es à même pas 4,50 euros par mois. Alors bien sûr que c'est une dépense.
Il y a des gens qui sont à 1 euro près par mois.
Oui, j'entends. Non, mais je l'entends. Évidemment. Mais si tu veux, il y a quand même un grand nombre de dépenses de santé qui sont gratuites aujourd'hui
évidemment,
en France. Et on peut s'en féliciter.
Voyager un tout petit peu, tu regardes ce qu'il y a à l'étranger, mais je ne comprends pas qu'un organisme qui dépend de l'ONU comme l'OMS se fixe là-dessus. Enfin, je veux dire,
il explique qu'il y a des gens que ça va encore plus précariser.
Ils disent que c'est mal réparti et qu'en fait, tu devrais cibler. C'est-à-dire qu'effectivement.
Au niveau santé, il y a 2-3 trucs à faire à l'étranger avant.
Mais tu devrais faire peut-être en fonction des revenus. C'est un truc qui était sur la table d'ailleurs un an et puis le gouvernement l'a très très vite évacué. On va passer au vol du jour.
Et on a envie de dire encore un. Cette semaine, à Lille, 2 ordinateurs portables appartenant à un responsable chargé de l'aménagement du site olympique de la ville ont été dérobés dans une voiture stationnée sur un parking. Les investigations sont toujours en cours pour identifier le suspect et déterminer la nature exacte des données que contenait l'ordinateur. Il faut rappeler que c'est la 3e fois que des données sensibles sur l'organisation des JO sont dérobées.
Est-ce qu'il faut nous communiquer ce genre d'informations, Thierry Moreau, à savoir que les 2 ordinateurs qui avaient été dérobés avant, en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, ils ne comptaient aucune donnée, je veux dire, qui était secrète. Il y en avait une, c'était une directrice d'hôpital. En fait, c'était les données, c'était les chemins sécurisés, mais tout le monde pouvait y accéder finalement sur Internet. Donc, en fait, ça nous angoisse.
Oui, mais vous savez très bien que si on essayait de cacher ce genre d'informations, ça serait pire que tout. Si l'information est finalement révélée, ça veut dire que si on avait voulu vous la cacher, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de sensible. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. En tout cas, les gens qui se sont mis à voler ces ordinateurs vont finir par ouvrir une boutique, tellement ça fait le nombre de fois que ça existe.
Mais là, ça se trouve, ils ont volé un ordinateur sans savoir que c'était quelqu'un qui était à la salle des JO, tu vois.
Évidemment. Donc, voilà, tout ça, je pense que. Il n'y a pas plus d'ordinateurs qui ont été volés à cause des JO et sachant qu'il y a des trucs concernant les JO. Simplement, ça fait plus l'actualité parce que on met la focale sur tout ce qui, dès qu'il y a le mot JO quelque part. Et donc, si c'est quelqu'un qui est nettoyeur de surface,
ça nous angoisse pour
technicien
rien, en fait.
De surface dans une institution des JO et qui se fait voler son téléphone portable, ça va faire une information. Donc, évidemment, il y a l'effet de loupe.
Yael Manuel, est-ce que ça vous inquiète?
Ah, c'est super anxiogène, évidemment. Ah, si, c'est super anxiogène. Alors, moi,
t'inquiète de quoi?
Je sais pas, que des données.
Les vrais plans, ils sont pas dans les ordinateurs, ils sont pas là dans la nature.
Ça m'a l'air quand même d'être un peu n'importe quoi, tout ça. Alors, moi, je demande aux personnes qui travaillent sur les JO de faire gaffe à leur ordi. S'il vous plaît, arrêtez, quoi. Qu'ils fassent attention.
Donc, ne pas mettre JO 2024 comme mot de passe.
Mais non, mais qu'ils se trimballent pas avec dans la rue, quoi. Je sais pas, qu'ils fassent quelque chose.
Mais non, mais si ça se trouve, il y a rien. En fait, on n'en sait rien.
Mais peut-être ou pas. Je sais pas.
Mais ou pas. Et de toute façon, donc en fait, toi, t'es inquiète. Tu fais partie des gens.
Ah oui, moi, je suis
inquiète par les JO. Donc, tu vas fuir Paris pendant les JO.
Ah ouais, ouais.
Mais ça m'étonne pas. Mais ton appartement, j'imagine.
Pas du tout, de toute manière, je peux pas y aller parce que j'ai pas les moyens de payer les places. Donc, de fait, je suis exclue
des JO. Tu peux vivre l'excitation.
Il y a une grande fête populaire.
Mais bien sûr. Tu peux vivre l'excitation des JO.
Mais oui, il faut rester à Paris.
Bah oui, avec tout le monde, avec les Parisiens, les touristes.
Je serai pas loin.
Les écrans géants.
Je vais pas être loin.
Tu pourras pas circuler, ça va être un enfer.
Non, ça va être l'enfer.
Fred Hermel, on a raison de nous communiquer ce genre d'infos?
Non mais déjà, qui laisse son ordi dans la voiture? Tu laisses ton ordi sur la banquette quand tu t'en... Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter, quoi. Bah, non, mais je veux dire, t'as déjà laissé ton ordi sur la banquette dans ta voiture?
Oui, non, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit.
Ou même dans le coffre. Et en plus, sachant ce qui s'est passé, en sachant ce que tu as... Que tu as des informations sur les JO dans ton ordi.
Mais c'est parce que justement, si ça se trouve, c'est des informations qui sont absolument pas
faites.
C'est un petit communiqué de presse et si ça se trouve, il n'y a aucune info et on est là à essayer de nous faire flipper. Et
si ça se trouve, c'est ça le plan secret de toute la sécurité de tous les JO.
Ouais. Paul,
je n'ai rien à ajouter.
Mais vous avez un dernier immanquable, c'est pour ça, c'est ça que je vous dis, Paul. Là, triche du jour.
Oui, mais je crois qu'on en a un peu parlé. On le fait quand même. Allez, le ministère de l'Éducation nationale a récemment confirmé que les taux de réussite aux examens étaient gonflés artificiellement avec des cas ahurissants dans certaines académies. Précisément à Créteil, le taux de réussite a été gonflé de 6 points en un an. Même constat à Nice, Versailles, Limoges, Aix, Lille, Nancy, Metz, Rouen. Des bidouillages permis grâce à des correctifs académiques. Un recteur peut réviser à la hausse les notes de l'ensemble des élèves de son rectorat s'il constate une différence par rapport à l'année précédente.
Mais peut-être que la différence, c'est que les élèves changent d'une année à l'autre et que donc peut-être ils sont moins bons.
Enfin, c'est oui, pas non, mais il me semblait surtout que l'éphémère ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a dit qu'il allait arrêter ce type de correctif de notes pour justement revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux.
Avec 51% de reçus au bac, tu vas voir, ça va nous refroidir quand même.
Bah oui, mais sauf que peut-être qu'au moins le diplôme aura une certaine valeur.
Oui, mais ce serait mieux, nous sommes tous d'accord. Mais c'est vrai que là, j'avoue que j'ai tenu à ce que vous fassiez ce dernier immanquable, Paul, parce que ces 6 points de plus me paraissent totalement aberrants.
C'est très marquant.
Et j'aurais trouvé ça dommage qu'on ne termine pas cette émission là-dessus.